À voix nue, Caroline Brouet,
Régine Vial, passeuse de film.
Premier épisode, la formation du regard. Bonjour Régine Vial.
Bonjour Caroline.
C'est joli ça, passeuse de film. Dans le langage professionnel, on dit plutôt distributrice, peut-être moins élégant que passeuse de film, mais ça dit bien l'idée. Distributrice, c'est un métier méconnu, mais ô combien important dans l'industrie et pour l'industrie du 7e art. Votre nom, Régine Vial, est indissociable de celui d'une vénérable maison de 60 ans en 2023, à la fois la plus ancienne société de cinéma indépendant en activité en France et l'une des plus prestigieuses en Europe. Je veux parler des films du Losange, où vous avez fait toute votre carrière et où vous avez accompagné celle de réalisateurs et de réalisatrices comme Éric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Michael Haneke, Nicolas Philibert, Lars von Trier et plus récemment Nicolas Philibert, Mia Hansenlov, Alice Diop et je ne cite pas tout le monde, il y en a beaucoup. On a 5 épisodes avec vous de 30 minutes pour que vous nous racontiez votre histoire, votre parcours au sein des films du Losange dans le monde du cinéma. Mais j'aimerais qu'on commence avec cette première émission par replonger, par faire un rewind, comme on dit au cinéma. Allez, on plonge en arrière et on se trouve dans un petit village du Massif Central, à Bellegarde-en-Forêt, en 1958. C'est l'année de votre naissance. Votre père est ouvrier aux Hauts de Badois. Votre mère ne travaille pas. Vous avez des origines sociales plutôt modestes, des parents très présents, très aimant et qui vous pousse à faire des études.
Absolument. Ben, merci de tous ces mots qui sont tout à fait justes. Donc, effectivement, mon père était ouvrier à la source Badois et il travaillait en poste. Donc, il partait le matin à 4h du matin sur une mobylette parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas de voiture. Il allait donc travailler. Moi, j'étais une enfant aimée de mes parents. Et ma maman ne travaillait pas quand j'étais enfant, puis quand j'étais un petit peu plus grande, elle est rentrée aussi dans une usine. Ma maman avait été une enfant très douée à l'école, elle rêvait d'être institutrice, mais elle était dans une époque après la guerre où les choses n'ont pas été faciles, donc elle n'a pas pu. Elle a été ensuite elle est obligée de faire des ménages, elle a rencontré mon père et mes parents m'ont beaucoup poussée à l'école, pour travailler, pour essayer de réussir. Ils croyaient beaucoup, beaucoup à l'instruction. C'est-à-dire qu'il fallait échapper à cette vie que mon père aimait, qui était la vie ouvrière. Il a aimé beaucoup son travail à la source Badois. Mais aussi, c'était un travail qui était difficile. Le matin, comme je vous disais, il partait très tôt. Moi, je me souviens enfant d'avoir eu peur pour lui quand la route était... Parfois, il faisait froid, la route, il y avait du gel, donc j'avais peur que papa tombe. J'avais beaucoup d'inquiétude pour eux et je voyais beaucoup la difficulté de leur travail. Et donc, je me souviens aussi, j'allais parfois le voir enfant quand il travaillait. Donc, je voyais aussi comment tout était devenu à la chaîne. Le travail avait changé beaucoup. Et les bouteilles de Badois passaient comme ça dans des chaînes.
Les temps modernes.
Les temps modernes, voilà. Et mon père faisait ça avec à la fois toute l'automatisation qui arrivait, toutes les difficultés, les cadences qui ont augmenté. Et j'ai vu beaucoup la souffrance aussi de mes parents. Et je me souviens aussi de ma mère quand j'ai eu 10 ans, donc il fallait qu'elle travaille aussi pour payer mes études. Parce que même si je suis enfant de l'école publique, bon, bah, faire des études, c'est une chose qui forcément coûte un peu aux parents. La tradition à l'époque dans les villages, pour des familles modestes, c'était aussi que très vite, après vers 16 ans, on pouvait aller travailler. Et donc je sais que ma mère est allée dans une usine voisine, ça s'appelait chez Lockheed, ils faisaient des freins de voiture. Et elle a postulé auprès du directeur et elle a dit « Écoutez, je veux travailler, j'ai une fille à élever qui veut faire des études et il faudrait que je travaille, il faudrait que j'ai un poste. » Et le directeur lui dit « Oui, mais dans votre candidature, vous avez demandé une place assise et je n'ai pas de place assise. Si vous travaillez, c'est un travail debout. » Et ma mère, qui était très très courageuse, a dit « Écoutez, il n'y a pas de problème, je prends. » Et donc, elle a été embauchée. Mais la bonne histoire, c'est qu'elle a eu une place assise, donc elle était contente. Et donc, mes parents faisaient donc poste. L'un partait le matin à 4h et l'autre travaillait de 13h à 21h. Et ils ne se voyaient pas de la semaine. Mais ils m'ont donné cette possibilité donc de faire des études et d'échapper aussi à une certaine difficulté de leur vie, à essayer d'être enseignante. C'était une chose qui était très importante pour eux.
Pour eux, est-ce que ça l'a été aussi pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous aimiez l'école? Est-ce que l'instruction qui était si fondamentale pour vos parents, vous l'avez reçue comme une chose positive? Ou bien cette exigence et même la façon dont vos parents se battaient pour vous, en fait, pour que vous sortiez aussi de cette condition, était lourde à porter pour vous?
Je pense que l'instruction était pour moi quelque chose de déterminant et j'ai tout de suite aimé ça. J'ai tout de suite aimé ça parce que j'ai rencontré, autant à l'école primaire qu'au collège, des professeurs qui m'ont beaucoup, beaucoup accompagnée, beaucoup aidée et j'aimais ça. J'ai tout de suite aimé la transmission. Quand j'étais enfant, d'ailleurs, ma maman racontait toujours dans la cuisine, je faisais l'école. C'est-à-dire, j'étais enfant unique, donc je refaisais le rôle de la maîtresse et je distribuais les cahiers, je faisais les demandes et les réponses. Ça amusait beaucoup mes parents. Donc je pense que j'ai eu très jeune un goût très affirmé pour l'instruction, pour apprendre, qui me vient certainement ma maman, pour lire, parce que la lecture a été déterminante dans mon parcours. Et je n'ai jamais vu comme une contrainte ce désir d'apprendre, mais plutôt comme une liberté.
Plutôt comme une libération.
Oui.
Et vous aviez un professeur de français, je crois, notamment, le même de la sixième à la troisième,
oui,
qui vous a fait découvrir le plaisir de la lecture et la force de la littérature.
Ah, j'ai eu un professeur merveilleux, donc Monsieur Lafont, il s'appelait, donc dans
vous
le collège
son prénom,
de Saint-Gilles, Robert Lafont. Voilà.
Et son prénom aussi.
Voilà. Et donc je l'ai eu pendant 4 ans. Il avait cette chose incroyable, c'est qu'avant de commencer le cours, il prenait un livre, je me souviens très bien, ses auteurs favoris étaient tout à fait accessibles pour nous qui étions en 6e, 5e, il prenait Jean Giono, il prenait Saint-Exupéry et il prenait 10 minutes pour nous lire des textes. Et donc on était tous extrêmement silencieux, à l'écoute. C'est vrai qu'il m'a ouvert une grande curiosité de lecture. Et il avait une grande générosité, il n'hésitait pas à m'aider, notamment quand j'ai passé par exemple le concours de l'école normale pour être institutrice, à m'amener des livres à la maison, à m'aider dans les rédactions. Il a pris un très très grand soin à me faire progresser.
Régine Vial, est-ce qu'il y avait un cinéma à côté de là où vous habitiez?
Alors il y a un cinéma à Saint-Galmier, mais en fait je n'y allais pas, sauf pour la fête de Noël de la Source Badoit, où en fait on donnait aux enfants un cadeau et il y avait un film qui était projeté. Mais sinon, non, il n'y avait pas de cinéma.
Vous vous souvenez du premier film que vous avez vu lors d'une fête de Noël, par exemple?
Oui, il y avait à la Source Badoit, il y avait Flipper le dauphin, voilà, donc où j'allais avec mes parents et c'était très joyeux. Mais je dois dire que j'ai plutôt commencé l'amour des histoires par les livres.
Plus que par les images.
Oui. Alors, je me souviens, je partais, on n'allait pas en vacances, mais c'était pas un problème. C'était un petit village, on faisait du vélo, il y avait beaucoup d'activités. Mais je passais beaucoup, beaucoup de temps à lire. Et avec une copine, on prenait notre vélo et on allait avec des livres s'asseoir au bord dans la nature, dans la forêt, après une petite marche. Et l'une et l'autre, on lisait à haute voix. On s'est mis à lire des choses de plus en plus exigeantes, passionnantes. Et cet amour des histoires m'a beaucoup portée.
Il y avait la télé chez vous?
Alors, il n'y a pas eu la télé au début. Il y a eu la télé en 1969.
Et donc, vous aviez 11 ans?
J'avais 11 ans. Et en fait, mes parents, dans ces années-là, m'ont donné le choix entre deux choses. Ils m'ont dit, est-ce que tu préfères qu'on achète la télévision ou bien... On avait des Parisiens qui venaient en vacances chez nous dans le village, avec qui mes parents étaient très amis, qui nous avaient invités. Ils habitaient à Asnières et ils nous avaient invités à Paris. Est-ce que tu veux la télévision ou bien tu veux un voyage à Paris? Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, de toute façon, tes parents, ils achèteront la télévision. Donc, prends plutôt le voyage à Paris. Et donc, on est venus à Paris, tous les trois, avec mes parents. On a pris le train, gare de Lyon. J'étais très impressionnée. Et vraiment, ça a été un moment très fort pour moi, d'enfant, de voir cette ville, de voir la beauté de cette ville, de voir les monuments. Mes parents m'ont emmené, on est allé au musée du Louvre, je me souviens, et c'était quelque chose pour moi qui a vraiment changé ma vie. Et j'ai gardé les photos, j'ai gardé toutes ces images, et pendant très très longtemps, elles ont été quelque chose qui m'a donné de la force. Et l'année d'après, mes parents, ils ont acheté la télévision.
Tu avais raison, entre amis.
J'ai vu plus de films à la télévision.
Il y avait le ciné-club de Claude Jean-Philippe.
Voilà, il y avait le ciné-club de Claude Jean-Philippe. Il y avait beaucoup de la télévision publique montrait beaucoup de films. Il y avait aussi des émissions sur le cinéma. Mais c'est venu plus tard, tout de même. Je pense que le cinéma est venu plutôt au lycée.
Oui, c'est ça, avec la première, notamment, et un film de Bergman.
C'est ça. Donc, j'avais aussi à nouveau une professeure de français, Mademoiselle Masque, Thérèse Masque. Et cette professeure de français nous emmenait au cinéma. Et le premier film que nous avons vu avec la classe était au Rex de Montbrison, Cri au chuchotement. J'étais interne. On est allé voir ce film. Et j'avoue que toute la classe, et moi y compris, nous sommes restés un peu étranger au film, un peu surpris, un peu à la porte de cet univers. Mais j'ai tout de même compris cette chose, qu'il y avait quelque chose à comprendre, quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui parlait des autres, qui, dans une forme qui était très forte et très belle, très imprégnante, très dérangeante aussi, mais que dans ce monde-là, il fallait que j'essaie de pousser la porte.
Pour aller voir derrière ?
Pour aller voir derrière.
Pour aller voir justement plus. Ce que vous n'aviez pas compris ?
Oui, oui.
Pour et aller... qui vous dépassait à ce moment-là ?
Qui me dépassait, mais que ça parlait des autres, que certainement j'avais appréhendé plus facilement par la littérature, que là, il y avait beaucoup de choses non dites, qu'il y avait des choses plus secrètes, plus fortes aussi parfois dans la violence, par rapport à ce que j'avais même lu dans les livres, mais qu'il fallait creuser cette chose. Et donc, j'ai commencé à pousser cette porte, avec Bergman, bien entendu, mais aussi d'autres réalisateurs, réalisatrices. Et petit à petit, ensuite, quand j'ai quitté Montbrison, parce qu'à l'époque, il faut dire que les films étaient assez peu accessibles. C'est-à-dire que les films existaient au cinéma, il n'y avait pas encore les cassettes vidéo. Donc les films n'étaient présents que par la télévision, qui faisait un magnifique travail quand même pour montrer des auteurs. Mais j'étais interne, donc j'avais assez peu la possibilité de voir les films tard. Il fallait les lumières au dortoir s'éteignaient à 9h, donc on pouvait lire avec une petite lampe de poche des livres, mais on ne pouvait pas regarder des films. Donc le film était une forme de culture plus difficile à aborder, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé. Donc, c'était quelque chose cette culture de cinéma est arrivée pour moi plus facilement quand j'ai été ensuite à Saint-Étienne.
En prépa ?
En prépa, enfin... j'ai aussi eu une professeure de français, Nicole Cornu, Madame Cornu, qui a été très importante dans mon parcours, qui était donc ma professeure de français et qui s'occupait aussi d'un cinéma. Et donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de possibilités de voir des films, d'autant qu'à cette époque, à Saint-Étienne, il y avait ce qu'on appelait les rencontres cinématographiques. Et c'était deux pays, deux cinémas qui se rencontraient, je me rappelle. Il y avait par exemple la France et la Grèce, la France et le Canada. Dans une ville qui était une ville assez ouvrière, Saint-Étienne, comme tout le monde le sait, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est qu'il y avait à peu près 100 000 spectateurs qui se déplaçaient dans les salles, allaient voir des films, parfois exigeants, parfois moins, mais beaucoup de réalisateurs venaient. Donc il y avait une énergie, un échange, une rencontre de cinématographies différentes, d'univers différents. Je me souviens avoir découvert Pasolini. C'est des choses qui étaient extrêmement fortes.
Il y avait des débats dans les salles.
Il y avait des débats dans les salles, des rencontres avec François Truffaut est venu. Donc il y avait un éveil au cinéma qui certainement a favorisé cet amour que j'ai eu pour les films et m'a permis de me plonger une immersion dans tout ça en offrant un paysage de films très divers, très variés, de tous horizons et de tout pays.
Donc là, la porte était entrouverte, on va dire, pour cet amour des films. Vous n'oubliez pas votre passion de la littérature et des histoires. Et puis, il y a un troisième pôle qui n'est pas très loin, Régine Vial. Il y a le théâtre. Et quand vous êtes à Saint-Étienne, bon déjà, avant, vous aviez participé à des troupes de théâtre scolaire. Mais quand vous êtes à Saint-Étienne, après avoir passé et manqué de peu l'école normale supérieure, vous partez à l'université, vous partez à la fac. Et puis, vous travaillez comme surveillante dans un lycée d'enseignement professionnel de Verrier-en-Forêt. À côté, pour gagner des sous, je crois. Et au moment de passer le CAPES et la grecque de lettres, vous êtes en maîtrise. Et là, comme ça, vous décidez de monter un club théâtre.
Étant d'un milieu modeste, je peux avoir un poste de surveillante. Et donc, c'est un internat. Donc, je passe du temps dans cette école. Et le soir, à Verrières-en-Forêt, c'est un petit village dans les monts du Forêt. La vie elle demande d'être animée, la vie des élèves, et j'aime beaucoup les élèves. Je me rends compte que ce désir d'être professeur est très profond. J'arrive dans la cour de l'école, je les vois, il y a tous ces visages, et j'imagine, tiens, celui-là, il pourrait jouer tel film ou telle pièce de théâtre. Et
vous leur faites jouer des rôles. Et vous inventez des personnages
voilà,
pour eux.
Et je rencontre à la fois aussi la professeure de dessin, qui s'appelle Bernadette Pouvaret, tout le monde l'appelait Dadou, et qui devient quelqu'un qui a changé ma vie. Parce
elle avait 60 ans à l'époque.
Elle avait 60 ans, j'en avais 20. Et elle me dit, mais c'est formidable, il paraît que tu veux faire un club théâtre avec les élèves. Je dis, bah oui, le soir, on s'ennuie, c'est formidable, on va prendre les élèves, regarde, on a les deux petites jumelles Nucie, là, elles sont tellement belles, elles pourraient jouer tel rôle. Et puis, il y a Christian Vernet qui pourrait jouer tel rôle. Et on s'est construit toutes les deux une passion autour de cette idée de monter le club théâtre. Et il y avait dans notre région une écrivaine qui s'appelait Marguerite Gonon, qui est une femme merveilleuse, une très grande historienne, qui pendant la guerre a été une grande résistante et qui avait repris tous les contes de la région qui viennent de très loin. Et donc il y avait un conte qui nous faisait beaucoup rire, qui s'appelle Le Grand Concornant. Et on l'a adapté, on lui a demandé son autorisation, elle était enchantée, elle a beaucoup ri aussi avec nous. Et ces trois générations, Marguerite Gonon, Bernadette Pouvaret, Dadou et moi, nous nous sommes mis à adapter cette pièce. Les élèves qui étaient donc dans un lycée professionnel qui faisait de la couture, cuisine. Et ETC, c'était
employé
l'entretien technique de
collectivité.
Voilà. Et donc, ceux qui faisaient la couture nous ont fait des costumes avec la professeure de
Dadou.
Couture. Avec, voilà. Il y avait la cuisine, c'était très bien, ils pouvaient faire des plats, des choses comme ça. Et tout ce petit monde s'est mis à apprendre les textes, à travailler, on a répété. Et comme ils étaient internes, on allait le soir jouer dans des petits villages devant le public qui était dans ces petits villages.
Alors, il y avait des montagnes alentours.
Aux alentours, à Les Rigneux. Et dans ces villages, il y avait beaucoup de paysans, beaucoup de gens qui étaient ravis de venir ici, qui riaient beaucoup à nos petits spectacles. Et c'était un vrai bonheur. Il y avait une très, très grande poésie. Et les enfants, enfin les adolescents qui avaient 15-16 ans, était complètement passionné par ça. Et on arrivait, ils me disaient, ah, mais on pourrait peut-être améliorer telle chose, et dans tel décor, on pourrait faire ça. Et il y avait un bonheur extraordinaire.
Et vous orchestriez tout ça? Vous faisiez la mise en scène? La direction d'acteur?
Voilà. Et puis on en partait en voiture, on mettait tous nos décors dans la voiture. On n'avait pas grand-chose, mais c'était bien fait. C'était pas du tout bricolé. On était quand même tous ensemble, très bons, très déterminés. Et mes acteurs et mes élèves étaient tellement heureux de cette chose ensemble.
Et cette pièce, Régine Vial, est devenue un film?
Oui, alors ensuite, en fait, cette pièce, enfin ce conte, Le Grand Concordant, dont la dernière phrase...
Il racontait quoi, Le Grand Concordant?
Je vais vous dire la dernière phrase. C'est « Grand Concordant, quand te déconcorneras-tu? Tu te déconcorneras quand toutes les grandes concornes se seront déconcornaillées. » Et ça raconte l'histoire d'une mère un peu abusive avec son fils qui est vieux garçon dans la campagne et qui le réprimande sur tout. Et ce garçon tombe amoureux d'une jeune et jolie fille qui, évidemment, a un petit peu de mal dans cette vie de la campagne. La mère meurt et la jeune fille pense qu'enfin elle va trouver la liberté et l'amour avec ce garçon. Mais malheureusement, ce garçon reprend les pires défauts de sa mère. Et c'est un peu cette histoire qui est très amusante, qui a donc un conte régional. Et donc, il y a un musée à Montbrison avec un conservateur dont le nom est Daniel Pouget. Et ils m'ont dit, mais nous avons un club cinéma à Montbrison. Il y a quelqu'un qui sait faire les images en 16 mm, le son. Et ce serait formidable que l'on garde une trace de ce travail que vous faites, parce que ça parle aussi de notre pays, tout simplement. Et avec Dadou, on a dit, pourquoi pas? Et donc, on a réfléchi à ce que cette pièce de théâtre devienne un film.
Oui, c'était moins filmer l'événement, c'est-à-dire vous en tournée, que faire de cette histoire-là, de cette pièce de théâtre, un film à proprement parler, c'est ça?
Absolument. Donc en fait, on a cherché des décors, donc on a trouvé dans les villages des lavoirs, des vieilles maisons en pierre, pour poser cette histoire. On a fait des costumes qui étaient très justes par rapport à l'époque, donc on a fait ça avec aussi toute l'école, pas seulement nous. Et pendant un week-end, nous avons tourné, c'est un court-métrage de 20 minutes.
La caméra venait d'où?
Alors la caméra était ce club cinéma de Montbrison, d'accord, avec un Bernard Espar, qui était l'imprimeur de Montbrison, et qui avait déjà fait des films, était très bon en 16 mm. Donc d'accord, il a fait l'image, et nous avons tourné avec
ses élèves. C'est vous qui réalisiez?
Oui. Oui, je réalisais, et Dadou était là, elle regardait. On avait trouvé vraiment, les gens des villages nous ont prêté les décors, nous ont prêté leur maison, leur cuisine. C'est assez beau. J'ai montré à Romère et Truffaut, par exemple. Ils ont beaucoup aimé, ils étaient touchés par la démarche. C'est un film évidemment plein d'imperfections, mais il y a quelque chose de plus beau que l'imperfection. C'est cette espèce d'amour que tous ont mis autour de cette chose et que l'on sent très bien, une fraîcheur, aussi quelque chose qui a fait que les élèves ont pris aussi tellement confiance en eux, dans cette chose qu'on a menée aussi loin.
Un petit film de 20 minutes, hein, quand même, c'était pas 3 minutes. Hein.
Et puis ce qui a été un peu plus difficile, c'est le montage, parce que ça, j'ai dû apprendre. Donc, c'était encore en 16 mm. Aujourd'hui, c'est avec des ordinateurs. Mais là, il y a l'image.
Là, vous coupiez les bandes.
Le ciseau. C'était jamais synchrone. Donc, on faisait ça le soir. Donc, j'ai passé tellement, tellement de temps parce que c'était pas tellement synchrone. Et donc, il fallait corriger. On a, avec Dadou, qui est quand même quelqu'un qui m'a tant aidée, on est à passer des heures, on y est arrivé.
Mais vous avez bien fait, Régine Vial, parce que ce film a fait beaucoup de bruit, en fait. L'éducation nationale, à l'époque, recherchait des films tournés en région. Et voilà que Le Grand Concordant a été sélectionné et présenté au Centre Pompidou, à Paris, le 6 décembre 1980.
Et oui, et alors avec tous les élèves sont venus à Paris. Donc ce voyage à Paris, je l'ai fait avec eux, avec Dadou. Et puis tous les élèves, nous sommes venus à Paris. Ils étaient enchantés. Ils n'étaient jamais venus à Paris. C'était magnifique de se retrouver là.
Et vous retrouviez le voyage que vous aviez fait enfant et qui vous avait tant ému.
Absolument. Et même si après, j'étais revenue plus grande, mais c'était avec les enfants, c'est magnifique. Et donc nous arrivons à Beaubourg. On est très impressionnés par le lieu. Mais voilà que l'on comprend que Beaubourg va passer notre film sur la plateforme, dans le hall, dans le carrefour des régions. Et là, les élèves me disent « Oh, mais madame, c'est pas possible, on va pas passer notre film au milieu du bruit, donc il faut quand même qu'on ait une vraie salle, on a fait un vrai film, il faut qu'on ait une vraie salle. » Donc, ils se sont pas laissés faire et on a bataillé jusqu'à ce que Beaubourg nous donne une vraie salle fermée avec le noir, pour passer notre belle copie 16 mm qu'on avait bien étalonnée, qui est donc passée et qui a touché, je pense, beaucoup de monde et qui touchait aussi beaucoup par le visage des élèves qui était à chaque fois si émouvant, si touchant, si si heureux de cette aventure qu'on a eue ensemble.
Et c'était l'enfance de l'art de Régine Vial, avec la découverte aussi, on l'entend, de l'importance de la salle. On ne montre pas un film dans n'importe quelle condition. Ça, c'est quand même aussi une bonne leçon que vous avez retenue.
Ah ben bravo, j'ai pas pensé, c'est vrai. C'est
finalement.
Vrai, c'est
vrai. Et forte du succès du premier, ben vous voilà lancée avec vos élèves dans un deuxième film. Pourquoi ne pas en faire un deuxième? Alors là, une super production, hein. L'île aux gourmands, d'après un conte d'Henri Poura. Ça aussi, c'est un grand souvenir.
Oui, c'est un grand souvenir. Donc, comme nous avions fait ce premier film, on a découvert une autre histoire qu'on aimait beaucoup, donc de Henri Poura, qui est un auteur de la région. Et nous l'avons adapté. Donc, c'était cette fois plus difficile parce qu'il y avait.
Plus ambitieux.
Il s'agissait de recréer une île un peu féerique où un petit meunier se rend parce qu'il est amoureux d'une princesse. Et donc, il fallait créer cet univers à la fois de l'enfance, mais à la fois de la gourmandise, avec des images qui surprennent le spectateur. Donc, il fallait mettre des sucres d'orge dans les arbres, il fallait faire des fontaines de crème chantilly, c'est ce qui était raconté. Et en fait, avec les élèves, ils m'ont dit « Mais tout ça n'est pas très compliqué, madame. Je vais vous trouver. » Ils me disent « Oui, les fontaines de crème chantilly, nous avons réfléchi. Si vous allez voir les pompiers, peut-être qu'ils peuvent vous faire cela. Les sucres d'orge, ils me les ont fait. Hein. Ils m'ont fait des sucres d'orge, ils me les ont emballés. » Et en fait, tout le monde nous a aidés. C'est-à-dire qu'on est allé voir un propriétaire d'une île qui est au milieu de la Loire, qui s'appelle l'île de Grandjean, et il nous a prêté l'île, avec un petit château sur l'île. Elle était inhabitée, on l'a aménagée. On a donc les pompiers de Montbrison sont venus nous faire nos fontaines de chantilly et on a mis des sucres d'orge dans les arbres.
Et tout le monde a participé là aussi à aventure collective. Le film a existé. Vous êtes ensuite allé sonner à toutes les portes des écoles de la région, montrer votre film à 4000 élèves, ce qui bien que vous avez été surnommé. Il y a même eu un article dans Télérama hein, sur vous à ce moment-là. Vous avez été surnommé la Cécile B2000 de Montbrison par Télérama. Merci beaucoup, Régine Vial, pour cette première présentation. On voit bien hein, les soubassements de ce que va devenir ensuite votre carrière dans le cinéma, parce que là, les portes ne sont plus seulement entrouvertes, elles sont largement ouvertes. À suivre donc l'épisode 2 de cette Awa Nu, premier pas au cinéma. J'ai presque envie de dire deuxième pas au cinéma. À demain.
À demain, merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation François Test, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.